On va voir, on prend la page 25, dans la parashat Noach. C'est la première fois que la Torah va nous parler d'Avraham Avinu. Donc on prend le pasouk, Chavvav, au milieu de la page. Vayechi Terach. On nous raconte que Vayechi Terach Shivim Shana, Terach, qui était le père donc d'Avraham, a vécu 70 ans. Vayoled, et il a donné naissance à Et Avram, Et Nachor, Vet Aran. Il a donné naissance à Avram, il s'appelle encore Avram, pas Avraham, Nachor et Aran. D'accord ? Bon, après on nous raconte, moi je passe la suite, d'accord ? Après on nous raconte, on va passer au pasouk Lamed Aleph, juste comme ça on finit avec ça. Vaikar Terach et Avram Beno, Terach a pris Avram son fils, Vet Lot ben Aran ben Beno, et Lot, le fils de Aran, donc son petit-fils, Vet Sarai, Kalato, Eshat Avram Beno, et Sarah. Donc Sarai, qu'on appelait Sarai encore, donc qui est sa bru, d'accord ? Eshet Avram Beno, la femme de Avram son fils, qui n'avait pas encore d'enfant. Sa bru, oui. Vayetzu itam et Ur Kasdim, et ils ont quitté Ur Kasdim, la Lechet Arsakenan, pour aller en Israël. Vayavou at Haran, Vayeshvusha, mais ils se sont arrêtés en chemin, ils sont venus jusqu'à Haran, et ils se sont arrêtés à Haran, ils se sont installés là-bas. D'accord ? Et enfin, après, la paracha nous dit que Terach, le père d'Abraham, est décédé, etc. Et qu'il a vécu quand même 205 ans. 205 ans, il a vécu. 205.
Mais normalement, c'est un tzaddik, hein, quand on dit les noms et tout.
Très bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi ? C'est que les Chachamim nous disent, avant même de commencer la paracha d'Echler. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai fait la fin de la paracha de Noach. Ce qui est intéressant, c'est que les Chachamim nous racontent qu'à l'âge de 3 ans, il y en a qui disent 20 ans, il y en a qui disent 40, mais la majorité disent que c'était à l'âge de 3 ans. Avraham a déjà reconnu son créateur. C'est-à-dire, de soi-même, il est arrivé à la conclusion que ce qu'on lui a raconté, c'est du pipeau. D'accord? Et qu'il y a forcément un dieu sur terre. C'est pas toutes ces idoles-là qui sont en train de le gérer. Après, Maïmonide explique qu'une fois qu'Avraham a compris ça, il n'a pas gardé pour soi, mais il a décidé de se donner à ça, et d'essayer de faire, donc de répandre dans le monde, le monothéisme, la croyance en Akadosh Baruch Hu. Il a même été jeté dans la fournaise, d'accord, dans la fournaise de Nimrod pour ça, de Ur Kasdim. Sachez que ça, c'est pas écrit dans la Torah. Vous ne verrez jamais une trace de ça dans le Chumash. Midrash.
D'accord. C'est tiré de la tradition orale.
C'est la tradition orale. C'est pas écrit. Dans la Torah, c'est pas écrit.
Ouais.
Voilà, c'est pour ça que je viens de lire Ur Kasdim. On a dit Ur Kasdim, pourtant là-bas, il y avait une fournaise, et là-bas, on a voulu le jeter. Et il a tenu, on l'a jeté, il a été sauvé. La Torah ne parle même pas de ça. Rien. D'accord.
C'est la Torah d'Alpé.
Bien sûr, ouais. C'est le Midrash, la Torah chez Baalpé. Les maîtres du Midrash, de manière générale, c'est les mêmes maîtres que la Gemara. En règle générale, hein, il y a des exceptions. Bon. Oui. Merci.
Oui.
Ensuite, on passe à la page 26. Parashat Lech Lecha. Parashat Lech Lecha, Avraham Avinu a déjà 75 ans. D'accord ? Ça en est passé des choses. Il a reconnu Dieu à 3 ans. Il a eu déjà plusieurs épreuves. D'accord ? Il a déjà 75 ans. Et pour l'instant, la Torah n'a pas dit une seule fois un bel adjectif sur Avraham Avinu. Par exemple, nous dire qu'Avraham Avinu était un tzaddik, comme on a vu sur Noach. Noach, au début de la paracha de Noach, c'est qu'on a mentionné le nom de Noach, on a dit Noach ish tzaddik.
Il avait déjà un... D'accord ? Il était plus âgé que 75 ans.
Très bien.
Ans déjà, à l'époque.
Mais Avraham, sur Noach, pourtant, avec ça, on l'a reproché. On a dit qu'il y avait des manières de le reprocher. Bon, je ne veux pas revenir au cours de la semaine dernière. Mais ça veut dire que Noach était reproché d'une certaine manière. Il y a même un avis qui disait dans Rashi, qui avait dit que s'il était à l'époque de Avraham, il aurait été considéré comme rien du tout. Et pourtant, on a vu, la Torah, par respect, a dit, Noach ish tzadik, c'était un tzadik. À la fin de la paracha Noach, quand on a parlé de Avraham, Avraham a déjà 75 ans. Même pas on dit qui était Avraham. On le met dans la famille, on dit oui, voilà, Terach a eu des enfants, il a eu Avraham, Nachor et Aran. C'est tout. Attends, dis-moi, et Avraham était quelqu'un? Rien. Pourtant, il s'est passé des choses dans la vie d'Abraham. Il a donné sa vie pour Dieu plusieurs fois. Et c'est une période dans laquelle il avait beaucoup de dialogue avec les gens. Le dialogue, essayer de les convaincre, la croyance, etc. La Torah n'en parle pas. Rien. Bien sûr. À partir de quand la Torah en parle, hein? La Torah va commencer à parler en bien d'Abraham seulement à partir de la paracha Lech Lecha. Qu'est-ce qui s'est passé dans la paracha Lech Lecha? On va lire ensemble 2-3 versets.
Vous
ne dis pas, non. Pas écrit. C'était pas forcément par idéologie en tout cas.
Qu'est-ce qu'il y avait de particulier?
Bon, ils voulaient partir. C'est un endroit où vous laissez... C'était la famille qui voulait partir. Ça, c'est une chose. D'accord ? Mais en tout cas, ils sont arrêtés en chemin, ils sont arrêtés à Haran. Et ils sont installés là-bas. Et c'est là-bas qu'Abraham était.
Ensuite, il paraît qu'il est mort en chemin à Terar.
Ah non. Va y avoir à Haran, va y avoir Shem. Ils sont arrêtés là-bas.
Oui,
ils sont installés. Ils sont installés là-bas. Quoi qu'il en soit, je ne vais pas m'arrêter sur ça. Je vais m'arrêter maintenant sur le début de la parasha Lech Lecha. Donc, Vayomer Hashem el Avraham, Dieu dit à Avraham, d'accord, Lech Lecha, Me'artecha, ou Mimolatecha, ou Mibet Avira. Retenez bien ces trois termes. Va-t'en de Artecha, de ta terre, ou Mimolatecha, de l'endroit où tu es né, ou Mibet Avira, et de la maison de ton père. On va les développer après. Donc, Dieu lui demande de quitter ces trois domaines-là. Ta terre, l'endroit où tu es né et la maison de ton père. Là, c'est à peu près la même chose, a priori.
En plus, il est déjà mort, son père.
D'accord. Elle arrête, bête à vira, la maison de ton père. Elle arrête, cher Eka, je te demande de quitter cette terre et d'aller vers la terre que je vais te montrer. Il lui a pas encore dit où il va. Et il ne lui dira pas où il va. Il sait pas où il va, Abraham, là. Abraham, il a déjà 75 ans. Il n'a pas d'enfant, certes, mais bon, il a déjà 75 ans, il a déjà un passé, il a sa famille, il a ses amis. Dieu lui dit, va-t'en. D'accord ? Il y a ses ennemis aussi, oui.
C'est jeune, hein.
Dieu lui dit, vas-y, d'accord ? Bon, pour l'équivalent de l'époque, on va dire c'est 40 ans, quand même. Bon, en tout cas, il a déjà vécu 75 ans. Dieu lui dit, va-t'en, vers la terre que je vais te montrer. Il dit même pas où il va. Rien. Ensuite, il continue. D'accord ? Il dit, Vayestra les Golgadol, je te ferai comme un grand peuple, je te rendrai un grand peuple, etc. Et je vais te bénir, etc. Alors, on va lire ensemble Rashi. Rashi dit, Lech Lecha, le premier Rashi, Lech Lecha. Rashi dit, Lech Lecha, la natra ou tovatra. Pourquoi il dit Lech Lecha? Car bon, on a tellement l'habitude d'entendre le mot Lech Lecha que ça nous dérange même plus. Mais en hébreu, on ne dit pas Lech Lecha, on dit Lech. D'accord? Lech Me'artecha. Lech, Lech Mipo. Lech, pourquoi Lech Lecha? C'est-à-dire quoi, Lech Lecha, va-t'en pour toi. Rashi dit, Lech Lecha, ça veut dire, Léana, traoultovatra. C'est-à-dire que sache que si tu vas, tu vas pour ton bien. Vesham Esra les Golgadol, et là-bas, je te rendrai un grand peuple. Vekan Yatazoré les Bani. Mais si tu restes ici, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Ça c'est premièrement. Veod, deuxièmement, Sheodia Tiv Achabaolam, je vais annoncer ta nature, c'est-à-dire je vais annoncer qui tu es dans le monde, c'est-à-dire que maintenant on va commencer à te connaître. Bon. Ceci dit, Akadosh Baruch Hu a promis à Abraham, certainement qu'Abraham est croyant, mais Akadosh Baruch Hu ne dit pas à Abraham où il va. Donc il lui demande de quitter sa famille, ses amis, tout le monde, il leur demande de quitter tout le monde, d'accord ? Et c'est ce que Abraham va faire. C'est pas rien, c'est un très très grand effort, ce qu'Akadosh Baruch Hu est en train de demander à Abraham. Il lui demande de tout quitter.
Alors, tu peux faire confiance,
bien sûr que...
Tu y vas. D'accord ? T'as pas besoin de savoir, je veux savoir, t'as pas besoin de savoir.
Là, en vérité,
là c'est beaucoup de
sabotissement. Sachez que le fait que Abraham Avinu, vous savez, dans le Pirkei Avot, on nous parle de 10 épreuves. On dit qu'Abraham Avinu a eu 10 épreuves. Asara Nisyonot Nidasa Abraham Avinu. Et quand on liste les 10 épreuves, d'accord, donc ils sont listés les 10 épreuves dans le Ramban, etc., dans plusieurs endroits, une des 10 épreuves, c'est quoi? C'est le départ en Eretz Israël. C'est considéré une épreuve. Pourquoi c'est considéré une épreuve? Puisque Abraham Avinu se retrouve à aller dans un endroit qu'il ne connaît pas, il ne sait même pas où il va aller. On lui dit même pas où il va aller. Et c'est seulement à partir de maintenant, Abraham a 75 ans, comme c'est écrit dans Pasuk Dalet. Abraham a 75 ans, c'est seulement à partir de là qu'on va commencer à parler en bien d'Abraham Avinu et qu'on va nous commencer à raconter la vie d'Abraham Avinu. Avant ça, on s'intéresse même pas. Alors bien sûr, il n'y a aucun détail qui est laissé au hasard dans la Torah. Si la Torah a tenu à ne pas parler de toute la vie d'Abraham avant 75 ans, elle a laissé ça au Midrash. D'accord ? Le Midrash va nous raconter, mais la Torah n'en parle pas. C'est qu'il y a certainement un message. C'est quoi le message que la Torah veut nous faire passer ? La Torah veut nous faire passer le message suivant. C'est que ce qu'on a de particulier ici, ce qu'il y avait de nouveau chez Abraham Avinu, c'est que jusqu'à présent, tout ce qu'il faisait, il comprenait. Et même quand des fois, il était prêt à donner sa vie pour Ur Kasdim, voilà, il était prêt à se le jeter dans la fournaise. Mais c'était par idéologie. C'était par idéologie, c'est-à-dire qu'il avait compris que Dieu, il fallait donner sa vie pour ça, donc il était prêt à donner sa vie pour ça. Ça, on a beaucoup de gens dans le monde qui sont prêts à donner leur vie par idéologie, pour leurs idéaux. Ça existe. D'accord ? C'est pour ça que pour la Torah, hein, c'est très important, c'est très bien ce qu'Abraham Avinu a fait, mais c'est pas en ça qu'est caractérisé le père du peuple juif. Il y a des gens, il y a plein de gens qui donnent leur vie pour leurs idéaux. Ils ont compris qu'il faut donner sa vie, même s'il va perdre sa vie, il dit oui, moi je vais perdre ma vie, mais il y en aura d'autres après qui suivront mon message. Donc ça le dérange pas. Même si moi je serais plus là pour le voir, ça me dérange pas. Là, ce qu'il y a de particulier chez Avraham Avinu, et pourquoi c'est pourquoi on a choisi cette épreuve-là, l'épreuve donc du départ en Eretz Israël. Ce qu'il y a de particulier dans cette épreuve, c'est que Avraham Avinu ne le fait pas dans le cadre d'une compréhension et d'un idéal. Dieu lui dit, vas-y, vers la terre que je vais te montrer. Il lui dit pas où il va. Et Avraham Avinu était réellement perdu à ce moment-là, si on peut dire, parce qu'il comprenait pas. D'accord ? Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que avant, quand il donnait sa vie, c'était dans le cadre de la compréhension. C'est-à-dire qu'il comprenait. Enfin, je donne ma vie pour un idéal, je donne ma vie pour ci, je donne ma vie pour ça. Il comprend, c'est-à-dire que ça reste, c'est un peu, comme il dit M. Bichou, c'est un peu politique. On peut, je sais pas si on peut dire le mot politique, mais en tout cas, c'est un idéal qu'il comprenait. Là, la nouveauté, c'est que c'est la première fois que Dieu lui demande quelque chose et qu'Avraham Avinu ne comprend pas du tout. Le comble, d'accord, le moment le plus fort, ce sera bien sûr quand Akadosh Baruch Hu lui demandera de sacrifier son fils. C'est la même chose.
Non, c'est pas
ah, c'est encore plus fort. C'est le même style. C'est que c'est un idéal. C'est que Dieu me demande, mais je comprends pas en quoi c'est mon idéal. Dieu, d'accord. C'est que, regardez, Avraham Avinu, d'accord. Oui, mais attention, Israël à cette époque-là, c'était pas grand-chose pour Avraham Avinu. Je vais essayer d'expliquer un peu plus. On va prendre l'exemple de la Akeda. Lorsque Akadosh Baruch Hu demande à Avraham Avinu de sacrifier son fils, maintenant ça fait des années, des dizaines d'années que Dieu n'arrête pas de lui dire, il lui dit ton fils, ce sera ta descendance, ce sera ta descendance. Et un jour, du jour au lendemain, il lui dit, ça y est, tue-le.
Et il lui redit de l'Echlecha.
Attendez, oui, l'Echlecha, oui, c'est
bien. Il redit encore l'Echlecha.
Il lui dit, ça y est, vas-y, tue-le. Quoi, tue-le? Mais tu es en train de te contredire.
Elle aurait pas tué.
Oui, c'est la même chose. Le Midrash explique, il dit qu'une des raisons pour lesquelles Avraham Avinu était perdu, c'est parce que Avraham Avinu, lorsqu'il était à Haran, il avait déjà ses habitudes. Il avait déjà ses gens, ses habitués, à qui il commençait à parler. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, va-t'en, tu vas tout commencer à nouveau à 75 ans. Pour Avraham Avinu, c'était une épreuve. C'était une épreuve qu'il n'avait pas compris. Et là, le fait qu'Avraham Avinu a été d'accord de suivre Akadosh Baruch Hu, même s'il comprenait pas, même s'il voyait pas en quoi ça faisait partie de son idéal. Parce qu'a priori, dans son idéal, hein, en tant que bon commercial, si c'est un bon commercial, bah, s'il a déjà des habitudes dans un endroit, il faut rester dans cet endroit, c'est ici qu'il faut développer, il faut pas aller dans un autre endroit où personne te connaît. Et il commençait à faire du travail là-bas. Il faisait du travail, il était connu. Pourtant, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dehors, va-t'en. Ça, c'est un enseignement très important. C'est un enseignement très important pour nous dire quoi? Pour nous dire que la Torah veut nous dire que c'est particulièrement à ce moment-là que va commencer la naissance du peuple juif. Du peuple juif. Jusqu'ici, tout était logique. D'accord? Tout était logique, tout était... On suivait un idéal. Là, la nouveauté qu'il y a, c'est quoi? Hein, c'est que on va commencer un lien avec Kadosh Baruch Hu, un lien qui est illimité, un lien qui ne dépend pas de la logique. Un lien qui est surnaturel. Et c'est pour ça que la Torah va commencer à parler de la vie d'Abraham seulement à partir de maintenant. Dès que ça commence à prendre un caractère surnaturel. D'ailleurs, il va aller à Haran. Il va aller en Eretz Israël. Ça va se passer très dur. D'accord? Parce que, comme on va voir, avec toute l'histoire avec Sarah, qui va être prise, etc., il va avoir des galères en chemin. Il va arriver là-bas, bah, il y aura la famine. Il n'y aura que des galères en chemin. Le contraire de ce que Dieu lui a promis. Dieu lui a dit, on te connaîtra, tu verras, les gens vont parler de toi en bien, et tu auras des enfants. Il n'y a rien pour l'instant. Et il tient. Ça veut dire qu'il ne voit pas comment, en quoi il est en train d'accomplir son idéal. Parce que les gens sont prêts à donner leur vie quand ils voient que leur idéal est en train de s'accomplir. Quand tu vois le contraire, il s'arrête, c'est demi-tour. Et c'est là, notre paracha, c'est là qu'on nous commence à nous parler de la vie d'Abraham pour dire non. Avraham Avinu n'a pas fait demi-tour. Alors, on va se poser la question, on va se dire, bon, ça c'est l'ordre que Kadosh Baruch Hu a donné à Avraham. C'est un ordre qui est très important, puisque c'est suite à ça qu'Avraham Avinu va rentrer en Eretz Israël, et que c'est là que, dans la paracha de Lech Lecha, on va poser les jalons du Ham Israël. D'accord? Donc, on a deux clés, on a deux choses très importantes. Dieu va annoncer à Avraham Avinu en allusion le don de la Torah. Et on va rentrer en Eretz Israël. Donc, c'est deux éléments clés du peuple juif. La Torah et Israël. Mais on va relire ensemble le pasouk Aleph. Qu'est-ce que Dieu a dit à Avraham? Qu'est-ce que Dieu a demandé à Avraham? Lech lecha, me artecha, ou mi molatecha, ou mi bet avicha. D'accord. Donc, on a expliqué de manière générale. Le message était que Akadosh Baruch Hu demande à Avraham quelque chose de surnaturel, et pas seulement surnaturel, quelque chose dans lequel on ne voit pas en quoi on est en train d'accomplir notre idéal. Ça, c'est très dur. Personne n'est prêt à faire quelque chose de surnaturel, mais au moins, il a envie de voir en quoi son idéal est en train de s'accomplir. Là, Avraham Avinu ne le voit pas. D'accord? C'est surnaturel, d'accord? Quand on demande, alors, très bien. Attendez. C'est pas surnaturel? On demande à quelqu'un à l'âge de 75 ans, d'accord? Très bien.
On a du mal à comprendre.
En quoi c'est surnaturel? C'est surnaturel parce que Avraham Avinu ne voit pas en quoi, en le faisant, son idéal va s'accomplir. Encore une fois. Avraham Avinu est quelqu'un qui est prêt à tout. Il est prêt même à se jeter dans une fournaise. Ça ne le dérange pas. Mais au moins, quand il est dans la fournaise, il dit, ah, les gens vont parler. Les gens vont dire, regarde, il était prêt à donner sa vie. Donc, mon idéal va s'accomplir. C'est bon, je donne ma vie pour ça. On a vu des gens, d'accord, même des scientifiques comme ça, qui ont donné leur vie, parce qu'ils se sont dit, je vais mourir, mais au moins, on saura que j'avais raison. Ça, ça existe. Mais au moins, quand il meurt, d'accord, il va avec un idéal. Là, Avraham Avinu, c'est écrit que pourquoi c'était une épreuve? C'est une épreuve parce qu'Avraham Avinu ne comprenait pas où il allait. Jusqu'à présent, tout ce qu'il faisait, il comprenait.
Ouais, c'est une épreuve. D'accord, c'est une grosse épreuve, c'est une épreuve.
C'est une épreuve qui est encore plus dure pour quelqu'un de l'envergure d'Avraham Avinu. C'est quelqu'un qui réfléchit avec sa tête. C'est pas quelqu'un qui est. C'est pas quelqu'un qu'on lui dit, vas-y, fais, il y va.
C'est moins une épreuve, parce qu'en plus, il a besoin de dire, je te ferai un grand peuple pour que lui, il parte.
Oui, ça s'est pas passé pour l'instant. Hein, dans le début de la paracha.
Non, mais peut-être.
Ah, quoi, peut-être, c'est sûr.
On parle de partir. Il est parti parce qu'il avait besoin de quelqu'un de beaucoup.
Oui. Il avait besoin. Oui, d'accord.
Sinon, il serait peut-être.
Mais pourtant, on voit que le Ramban, comme j'ai dit, le considère dans la liste des 10 épreuves. Parce que c'est une épreuve de demander à quelqu'un de partir vers l'inconnu. Surtout quelqu'un qui, toute sa vie, est une vie qui est issue des idéaux. Il sait ce qu'il fait, il sait où il va. D'accord.
Il a tout quitté.
Alors, justement, on va développer ensemble. Une personne comme ça, quand Dieu il vient et lui dit tu vas tout quitter, c'est très dur, c'est une épreuve. D'accord ? N'oubliez pas qu'on a affaire à quelqu'un qui est prêt à donner sa vie pour ses idéaux. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. À l'âge de 3 ans, il a découvert tout. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Tout doit être compréhensible, tout doit être carré. Et là, quelqu'un, une personne comme ça, lui dit maintenant tu quittes tout. Sans t'expliquer où on va. Sans t'expliquer pourquoi là-bas c'est un idéal. D'accord ? On t'explique pas, on te dit vas-y. D'accord, c'est Dieu. Mais là, c'était réellement une épreuve. Pourquoi c'était réellement une épreuve? Parce que là, vraiment, Dieu l'a mise en épreuve, il lui dit...
Tu n'es plus un homme.
D'accord. On va voir, d'accord. Là, Dieu va lui dire, on va voir maintenant, est-ce que tu le fais pour toi ou est-ce que tu le fais pour moi? Alors, on va reprendre ensemble les 3 termes qu'on a vus dans le pasouk Aleph. Qu'est-ce qu'a dit Dieu? Lech lecha, me'artecha, ou mi'molatecha, ou mi'bet avicha. D'accord. 3 éléments. 3 éléments qu'on a vus dans la paracha. Donc, ta terre, l'endroit où tu es né, et la maison de ton père. D'accord. Alors on va développer ensemble. L'endroit où tu es né.
Moledet.
D'accord. Moledet.
Naître.
La patrie, comme ils disent aujourd'hui, Moledet. La patrie. L'endroit où tu es né.
La patrie, ouais.
La patrie. Non, la traduction, c'est la patrie. Bon. Donc Dieu demande 3 choses. De quitter la terre, la patrie, on va dire, bon, l'endroit où tu es né, et la maison de ton père. Ces 3 éléments très importants. Et dans ces 3 éléments, on va retrouver aussi un enseignement pour nous. Il faut savoir que chaque élément que la Torah nous raconte, il y a forcément un enseignement. Sinon, la Torah ne le raconte pas. C'est quelque chose que j'ai répété plusieurs fois, que en 2000 ans d'histoire, il y a certainement des tas de choses qui se sont passées. Par exemple, Parasha Bereshit, Parasha Noach, on a déjà couvert 2000 ans d'histoire. Non ? On a déjà couvert 2000 ans d'histoire. À peu près. Le reste, à partir de l'Ech Lecha jusqu'à la fin, d'accord ? Bon, ouais. On aura à peu près 400 ans. Mais en deux parachats, on a couvert 2000 ans d'histoire. Pourquoi? Parce que la Torah nous raconte seulement les épisodes desquels on doit tirer un enseignement. Donc, il faut dire que ce que la Torah nous a raconté, c'était ce qu'on pouvait tirer un enseignement. Voilà, l'histoire avec le Maboul, etc. Sinon, la Torah nous raconte pas, parce que ça nous concerne pas. C'est pas tes affaires, t'as pas d'enseignement à tirer. Donc là, si la Torah nous raconte l'histoire de l'Ech Lecha, c'est-à-dire qu'il y a un message pour nous aussi, que Dieu nous demande à nous aussi de l'Ech Lecha, de quitter. De quitter quoi? Alors, 3 points. Artecha, molatecha, betavira. Eretz, c'est quoi? Eretz en hébreu, ça veut dire la terre. Ça correspond à quoi dans notre vie de tous les jours? Eretz, ça correspond, écoutez bien ce qu'on va expliquer, ça correspond à ce qu'on appelle les trunot ativiyot. Ça veut dire le caractère naturel d'une personne. Un enfant, depuis qu'il naît, un bébé, depuis qu'il sort du ventre de sa mère, tout de suite on voit sa nature. Il naît avec ça. Il repose sur ça. C'est-à-dire que toute sa vie, il devra vivre avec cette nature. Alors après, il devra apprendre à la travailler, à la camoufler, à la cacher, à la changer. Mais toute sa vie, il vivra avec cette nature. Un enfant, depuis qu'il naît, tout de suite, on voit. Est-ce que celui-là, c'est un calme? Est-ce qu'il sera calme? Est-ce qu'il sera studieux? Tout de suite, on voit tout de suite à sa tête, à son visage. Artecha, ça correspond à quoi?
Hein, d'accord.
En tout cas, si vous voulez vous simplifier la vie, on va dire que dans la première année de l'enfant, tout de suite on voit sa nature. C'est plus simple pour vous. Voilà. Moi, je vois la naissance, en tout cas. Chez les miens, j'ai vu à la naissance. Mais, en tout cas, si vous voulez, la première année. La première année, c'est bon? C'est plus simple, la première année?
Ah, même la première année.
Première année, on voit la nature tout de suite. Est-ce que c'est un calme? Est-ce que c'est un excité? Est-ce que c'est un curieux? Est-ce qu'il est fainéant? Tout de suite.
La première année, mais dans le premier jour, tu vois tout ça, d'accord. Si c'est un curieux, si c'est un calme.
On voit le...
Hein?
Alors, c'est quoi Artecha? On va pas quitter le sujet. C'est quoi Artecha?
Il veut que dormir et manger, c'est tout ça.
Oui, mais on voit ses yeux. Bon, enfin, peu importe.
J'ai même pas encore les yeux ouverts, le bâtard.
Voilà, ensuite. Voilà, la tueur. Tu peux demander, tu veux chercher plus que ça. Tu peux demander à la mère, quand le bébé il est dans le ventre, elle sait déjà. D'accord, par rapport à la manière comment le bébé il bouge, etc. Elle sait tout de suite, est-ce que son enfant sera un actif, est-ce que c'est un curieux, est-ce que c'est un calme, est-ce qu'il aime dormir, est-ce qu'il est fainéant. Demande à ta femme, elle va te dire, quand il est dans le ventre, je sais déjà tout ça. C'est clair. D'accord. Bon, alors, c'est quoi Artecha? C'est quoi Artecha? Artecha, c'est comme la terre. La terre, c'est sur laquelle nos pieds reposent. Ça veut dire, c'est un élément qu'on est avec et qui nous accompagnera toute notre vie. C'est quoi Eretz? Eretz, c'est le caractère d'une personne, c'est la nature d'une personne. Ça, c'est Eretz. Moledet, c'est quoi Moledet? Dans Moledet, d'accord? Moledet, ça veut dire, c'est la patrie. Ça veut dire quoi la patrie? Ça veut dire, c'est les habitudes qu'on a prises avec l'influence de l'entourage. Ça, c'est déjà, donc c'est l'entourage, d'accord? L'entourage, ça va être tout l'entourage. Par exemple, un enfant qui naît en France, un enfant qui naît en Israël, c'est pas le même enfant. Pourquoi? Parce que l'entourage, ça a forcément un impact sur la personne. Et même dans le même pays, selon les villes, selon les quartiers, il y a forcément un impact. C'est clair. D'accord, très bien. Ça, c'est Moledet. Donc, Eretz, on a dit, c'est la nature, indépendamment de l'entourage où on habite. C'est la nature. Une personne est née avec une certaine nature. Moledet, c'est quoi? Moledet, c'est les habitudes qu'on a prises. D'accord?
Le caractère.
Ça, c'est Eretz. Moledet, c'est les habitudes qu'on prend par l'entourage. C'est quoi Bet Avicha? Bet Avicha, c'est encore plus fort. Bet Avicha, c'est l'éducation qu'on a reçue à la maison. Et ça, en vérité, on sait très bien que l'éducation qu'on a reçue à la maison, c'est ça ce qui va former toute notre vie. De manière générale, en règle générale, les enfants reproduisent ce qu'ils ont vu chez leurs parents. En règle générale. Donc on a trois choses, trois éléments on a ici. On a premièrement la nature avec laquelle on est, le caractère si vous préférez. Deuxième élément, c'est l'entourage, hein, un enfant français, c'est un enfant français, un parisien, c'est un parisien, voilà. Ça c'est Moledet. D'accord? Ça veut dire l'influence de l'entourage. Et Bet Avicha, c'est l'éducation qu'on a reçue à la maison, qui a duré plusieurs années, et qui va, de manière générale, former la vie d'une personne. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu Avraham Avinu? Il lui dit, tu vas quitter ces trois choses-là. Pour me suivre, tu vas devoir quitter ces trois choses-là. Tu vas devoir quitter ta nature. Ta nature, c'est quoi ta nature? Ta nature, ça veut dire toi qui es toujours quelqu'un qui cherche des idéaux, qui veut comprendre tes idéaux, tu coupes avec ça. Maintenant, tu comprends plus rien. Tu vas couper avec ça. Molatera, ta patrie. Haran, tu connais bien. L'endroit où tu étais, tu connais bien. D'accord? Tu vas couper avec ça, tu vas aller dans un endroit inconnu. Et Bet Avicha, tu vas quitter ta famille. Ta famille, eux qui ont formé, d'accord? Eux qui t'ont formé. Et même si tu es décidé de croire en Dieu, mais c'est quand même eux qui t'ont formé, qui t'ont appris à réfléchir, qui t'ont appris à vivre, qui t'ont appris tes bonnes manières. D'accord? Toi, tu as décidé de croire en Dieu, mais c'est quand même eux qui t'ont appris à vivre. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Il dit maintenant, tu vas quitter ces trois choses-là. Tu vas quitter Artecha, Molatera, Bet Avicha. Tu vas quitter ta nature, d'accord, ton caractère, tu vas quitter ta patrie et tu vas quitter ta famille. Ça, c'était un Nisayon, c'était un grand, grand Nisayon. De la même manière, l'enseignement qu'on a tiré aujourd'hui, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il demande à un juif de quitter ces trois éléments-là. Ça veut dire quoi quitter ces trois éléments-là? Ça veut pas dire qu'il faut lâcher sa famille, ça veut pas dire etc. Mais ça veut dire que lorsqu'on doit accomplir la Torah, il faut pas avoir peur d'aller au-dessus de sa nature et quitte même à passer outre un de ces trois éléments. Ça veut dire, pour servir à Kadosh Baruch Hu, des fois on doit passer outre son caractère. Ah, ça c'est Artecha. On doit passer outre sa patrie. Hein, par exemple, imaginez-vous un jour en France, on peut plus suivre la Torah. Pas plus, c'est impossible. On doit partir. D'accord? Partir. J'ai pas dit où. Ouais. En Israël, pourquoi pas? D'accord? Il faudra partir. J'ai beaucoup de pionniers. Hein, t'as des sœurs en Israël.
En Iran,
c'est sûr.
On est déjà allé en New York.
C'est
la question, c'est
à
New York.
Je suis en Israël,
je vais à New York.
C'est sûr, on est resté. D'accord. Donc, il faut... Comme Abraham, il est parti où Abraham? C'est pour vous taquiner. Donc, il faut quitter, mais en passant par New York.
Il a quand même dit, hein, il a fait.
Donc il faut quitter ces trois éléments. D'accord?
Les New Yorkais, ils quittent quoi, eux?
Et là, il me dit, il y a pas longtemps, il m'a dit, je fais ma Aliyah aux États-Unis. Non, tu fais ta Yerida aux États-Unis.
Ça dépend s'il va à Brooklyn, Tampa, quoi, il fait ça.
Ah, pas ça, l'Aliyah, c'est pas non plus. Géré. Alors, trois éléments. Et ça, c'est un enseignement actuel. L'enseignement actuel, c'est que lorsqu'une personne veut suivre la Torah, il doit être prêt à quitter un des trois ou les trois. D'accord? S'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Si Baruch Hashem, on a été éduqué dans une famille qui est chômeur Torah, mitzvot, etc., il n'y a pas de problème. Mais quand on veut suivre Akadosh Baruch Hu, elle arrête la charrette, c'est-à-dire vers l'inconnu, vers quelque chose qu'on ne comprend pas, il faut être prêt à quitter un de ces trois éléments ou les trois. C'est quoi les trois éléments? Tout d'abord, qui est son caractère? Qui est son caractère? Il y a toujours une mitzvah qui est contre notre caractère. Il y en a au moins une. Toujours. Et de manière générale, sachez que la mitzvah qui est contre notre caractère, c'est la mitzvah qui est le plus liée à notre neshama.
C'est la plus difficile.
Comme on voit dans la Gemara. La Gemara, elle dit que les chachamim, des fois, ils se demandaient entre eux, ils disaient, avour, bema, yavez, zahir, tfe. Ils disent, ton père, quelle mitzvah il faisait attention le plus? D'accord? Alors là-bas, les commentaires, comme le marchand, il pose la question, il dit, mais attends, c'est du roi, quand il pose une question, il dit, ton père, il faisait attention à quelle mitzvah le plus? Mais on doit faire attention à toutes les mitzvahs, c'est quoi cette histoire? Il explique là-bas, il dit que la réponse est, que bien sûr qu'on a compris toutes les mitzvot, mais il y a toujours une mitzvah qui est liée particulièrement à notre neshama. Et comment on sait c'est quelle mitzvah? C'est la mitzvah qu'on a le plus de mal à faire. Parce que le Yetzara, lui, il sait c'est quelle mitzvah, et lui, il s'arrange qu'on lui mette les bâtons dans les roues. D'accord? Et là, ça veut dire la mitzvah qu'on a le plus de mal à faire, ça veut dire c'est une mitzvah qui est le plus liée à nous. Et c'est là que Dieu te dit, l'ech lecha me'artecha, quitte ton caractère. Tu as du mal à faire cette mitzvah, ton caractère t'empêche. Non seulement ça veut dire que tu dois la faire, mais ça veut dire que c'est ta mitzvah. Et ça, chacun il a sa mitzvah. Il y a des gens que ça va être, se lever le matin, il y a des gens que ça va être la colère. Chacun avec son épreuve.
De mitzvah ou de
tout, avera. D'accord. Mitzvah avera. La chose qu'on a le plus de mal à faire, ça veut dire que c'est notre mitzvah. Et le jour où on aura fini, le jour où ça deviendra facile, ça veut dire que la mission a déjà changé. D'accord. Il y a déjà une autre mission. Ça c'est artecha. Faut pas avoir peur de quitter son caractère. Molatecha, sa patrie, comme on a expliqué. Sa patrie, ça veut dire que, par exemple, on dit qu'une personne. Une personne qui naît en France, alors il dit, moi je réfléchis comme un juif français, et si on me demande de faire une mitzvah qui ne va pas, qui ne suit pas la République, je n'accepte pas. Non, je te dis, ça marche pas comme ça. Je suis juif avant d'être français, hein, comme ils disent aujourd'hui. Je suis juif français. Je suis juif avant d'être français. Et on a le troisième élément qui dit, bet avira. Que s'il faut quitter ses habitudes, il faut quitter l'éducation que nos parents nous ont donnée pour accomplir la Torah, il ne faut pas hésiter à le faire. J'ai parlé il n'y a pas longtemps avec quelqu'un comme ça, qui est de la communauté, qui va au Hashem a fait Teshuva, et j'ai parlé avec sa mère. Sa mère m'a dit, je vais vous dire, le plus dur pour moi, c'est quoi? Le plus dur pour moi, c'est de voir que mon fils ne suit pas l'éducation que je lui ai donnée. Et elle lui rend la vie amère à son fils, je peux vous dire. Elle lui rend la vie amère. Elle dit, quoi, tu manges pas chez moi, la cuisine, etc. Elle lui rend la vie amère, parce que c'est très dur. Ah non, c'est elle qui lui rend la vie amère.
Ça dépend,
lui, dans les deux cas.
Et il a quitté. Alors, est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Bien sûr, c'est dur. Est-ce qu'il a raison ou il n'a pas raison? Bien sûr.
C'est évident.
Pour accomplir la Torah,
c'est la plus difficile, celle-là. Hein.
C'est la plus difficile. D'accord.
C'est la plus difficile.
Vous avez remarqué que, oui, il est obligé. Il n'a pas le choix. S'il a décidé de faire Torah mitzvot, d'accord,
il peut expliquer à sa mère.
Alors, le fils, je vais vous dire, bon, je referme l'exemple. Le fils, c'est quelqu'un. Non. Le fils, c'est quelqu'un de très diplomate. Mais il a dit à sa mère, écoute, maman, avec tout le respect que je te dois, je peux pas manger à la maison.
Non, alors si c'est très global, avec tout le respect que je te dois tellement de respect, alors, viens. Je prends tout à fait fait.
Oui, il a dit ça, elle veut pas, elle dit non, tu prends pas la tête. Elle veut pas. Et c'est pas que ça. Tu lui dis, ce produit, je peux plus l'acheter, tu peux plus mélanger ça avec ça, elle écoute pas, elle dit, ça y est, tu vas casser les pieds. D'accord? C'est ça, Bet Avicha. C'est ce qui peut se passer de plus beau, mais c'est ce qui est de plus dur.
De plus dur.
D'un autre côté, chut, messieurs. D'un autre côté, la Gemara a dit que Bakol Adam Mitkane Chout Mivivno, qu'une personne peut être jaloux de tout le monde, d'accord, sauf de son fils. C'est-à-dire qu'on peut être jaloux même de son père, mais un père n'est jamais jaloux de son fils. C'est-à-dire qu'il y a pas, c'est pas la jalousie. Ce qui dérange le plus les parents, c'est le fait qu'elle a l'impression que toutes les années d'éducation qu'elle a fait, c'est pour rien, ça va à la poubelle. Il a craché sur tout, il a tout jeté. C'est très dur. Il y a forcément des conflits. Et c'est ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham. Quand le Midrash, il raconte ce qui s'est passé dans la maison d'Abraham. Terach, il disait à Abraham, il dit, attends, je comprends pas. Tout ce que je t'ai éduqué, tu jettes tout comme si de rien n'était. Il y avait des conflits constants entre Abraham, sa famille, ses maîtres. Le Midrash, il raconte. Vous lirez dans le Midrash. Aujourd'hui, on a le Midrash, raconte. C'est ses maîtres. Il lui dit, mais attends, c'est pas comme ça qu'on t'a appris. Ça, c'est Bet Avicha. Bet Avicha, c'est ceux qui ont formé l'éducation. Et quand on veut s'approcher de la Torah, il faut pas avoir peur de quitter, même de couper court, même avec ça. Et ça, c'est une épreuve, c'est très très dur. C'est pour ça que c'est seulement à partir de maintenant qu'on commence à parler de la vie d'Abraham, parce que c'est ce caractère surnaturel, et qu'Abraham a vu, nous ne le fait pas forcément par idéal, mais il le fait parce que Dieu l'a demandé. C'est ça ce qui fait la spécificité du peuple juif, et c'est pour ça qu'on commence à parler d'Abraham à partir de 75 ans.
Qu'est-ce qu'il lui a enseigné les mecs?
Il a enseigné l'idolatrie. Il a un préavis, il a dit maintenant, c'est nous qu'on t'a appris à vivre, qu'est-ce que tu fais?
Et vous n'avez pas dit, mais pour le caractère de l'enfant, là.